Par ailleurs, je donne des formations, des conférences et du conseil, de l'accompagnement avec d'autres experts, parce que j'agis pas toute seule, parce que ce serait absurde d'agir toute seule. Et donc, quand on a une politique publique qui se met en place, par exemple, ça peut être la restauration collective dans une ville, en accord avec toutes les... C'est pas que les enfants, parce qu'il y a aussi des personnes âgées dont il faut s'occuper, il y a des EHPAD, il y a des hôpitaux. À Marseille, on est en train de développer une grosse politique de transition écologique de l'hôpital. Je vous signale au passage que 8% des gaz à effet de serre sont produits par le milieu hospitalier. Donc l'hôpital soigne et en même temps crée des pathologies. On a un vrai problème de cohérence. Il faut qu'on travaille là-dessus. Bref, c'est pour ça qu'il faut faire de l'accompagnement. Et quand je fais de l'accompagnement, c'est avec des vétérinaires, des médecins, des écologues, des anthropologues, des sociologues, des juristes de l'environnement. Parce qu'il y a un droit environnemental à faire appliquer quand même. Et c'est quand même pas mal de s'appuyer aussi sur ce que les institutions nous permettent d'avoir comme socle, comme base, comme la loi Egalim, etc. C'est des leviers. Nous, on va plus loin que la loi Egalim, mais c'est un peu ça l'objectif. Et ce qui est très, 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 très important, à mon avis, c'est que quand vous intervenez, en tout cas, moi, c'est la façon dont j'envisage les choses, dans une prison, dans un EHPAD, dans une collectivité de façon générale auprès d'agents, d'inviter des gens qu'on pensait avoir rien à voir avec le sujet. Et ça, donc ça fait partie de la question démocratique, bien sûr, de tout le monde est acteur de santé. Ça veut dire que on pourrait dire à la personne qui ramasse les déchets dans la rue de venir parler de ce que c'est que des déchets quand on veut traiter les déchets à l'hôpital. Parce qu'elle n'a pas la même représentation de ce que c'est que ramasser des déchets. Quand on fait une formation à des profs, faire intervenir un vétérinaire, a priori, ça ne va pas de soi. Et si, en fait, c'est hyper intéressant, parce qu'en vétérinaire, il parle des animaux. Les animaux, ça parle aux enfants. Donc on est en train de toucher à des choses qui créent des leviers psychologiques qui sont décisifs pour engager une motivation. Parce que si on fait juste un tableau technique avec un PowerPoint qui nous dit la qualité de l'air, c'est tant de pollution, il faut agir, on se sent un peu dépourvu. Et donc dans les écoles, c'est ce qu'on va faire par exemple à Marseille et qu'on pourrait faire à Digne-les-Bains et partout ailleurs, c'est faire venir des interventions extérieures qui viennent nous toucher pour arriver à nous mobiliser. Très beau, très bon moyen de lutter contre notre éco-anxiété.
Et alors une petite question encore, parce qu'après il faut passer à l'intervenant suivant. L'antibiote résistance donc, est un véritable problème de santé publique, c'est majeur, on a encore énormément de travail à faire sur ce sujet, on n'est pas bon, hein. On n'est pas bon du tout. Donc est-ce que vous travaillez spécifiquement sur ce sujet? Est-ce que c'est possible, moi c'est à titre individuel parce que je suis médecin, de pouvoir savoir, aller voir, parce que c'est un sujet.
On peut vous inviter à Paris dans pas longtemps, la région PACA, je ne sais pas si vous y êtes, fait un colloque échange d'expertise sur l'antibiorésistance et la gestion en PACA. Donc ça c'est une première chose. Moi, je conduis une thèse sur une seule santé en philosophie avec, pour cas pratique, l'antibiorésistance. Donc, avec plaisir pour en parler sans développer là tout de suite pour laisser la parole au prochain intervenant. Mais la façon dont on a appréhendé l'antibiorésistance, c'est vraiment typique d'une déconsidération des autres santé et des autres santé aussi au sens social, puisqu'on a vraiment pas pensé l'appropriation culturelle de ce médicament, de ces médicaments, chez des populations où on n'a pas les mêmes représentations de ce que c'est que se soigner. Et résultat, tout le monde a mangé n'importe comment et on arrive à des situations critiques. Et du coup, on pourra en reparler avec plaisir. Merci.
Il y a beaucoup de questions. Alors, on va être pris par le temps.
Je reste toute la journée.
Voilà,
on peut se parler après.
C'était ma question. Donc, vous restez pour le déjeuner et on pourra vous solliciter éventuellement. Mais je vous en prie, posez encore une question et puis après, on va passer à Pierre-Éric Suter.
J'essaie de répondre très vite.
Alors, j'essaie d'être très court, mais quand on est sur des approches globales, je prends un simple exemple, au salon de la construction à Paris, il y avait la chaume. Sur le stand de la chaume, il y avait la moitié des agriculteurs et l'autre partie, c'était les producteurs. Je prends une discussion que j'ai entendue en off. Ils produisent de la chaume en quantité suffisante pour que derrière, ils puissent produire d'autres choses et qu'en même temps, ça puisse servir d'isolant pour la construction. Si je prends dans notre région, qu'est-ce qu'on a? On a deux choses exceptionnelles. On n'a pas loin d'ici la Camargue. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il est interdit de brûler la paille de riz. On récupère la cosse pour faire la balle de riz, mais pas encore la paille. Il y a 27 000 tonnes qui sont brûlées par décret. Chaque année, on peut encore le faire. 27 000 tonnes. On prend la paille de lavande, on a une, c'est quelque chose d'exceptionnel ici, juste à côté. Il y a moyen de mettre la paille de lavande en isolation. Et du coup, il faut avoir de nouveau une démarche globale et pas d'avoir simplement des lois ou des interdits derrière, mais d'avoir une démarche globale avec les producteurs et avec les consommateurs et après regarder le vivant que ça peut amener derrière. Merci.
Et des logiques de territoire, effectivement, parce que nos spécificités territoriales sont vraiment à prendre en compte dans toutes les décisions. La FNE, vous savez, France Nature Environnement, qui est une association qui réunit beaucoup d'associations environnementales, sont en train de créer une fresque. Alors, il y a beaucoup de fresques, hein, fresque une seule santé, fresque du climat, etc. Ils vont essayer de créer une fresque territoriale pour la PACA, vraiment, pour essayer de voir comment est-ce que on peut sensibiliser à nos problématiques d'eau, nos problématiques d'air, nos problématiques de réchauffement climatique. Ça ne va pas être pareil chez nous qu'en Bretagne. On a du souci à se faire. Il faut vraiment qu'on agisse et qu'on se prépare avec des choses comme ça, notamment autour de l'habitat.
Pour la 18e fois, merci encore, Léonie Varoubien.
Merci à vous, merci pour votre écoute, merci pour votre invitation, merci aux intervenants, à ceux qui ont organisé cette journée. Ça n'a pas été facile pour que je puisse arriver jusqu'à vous. Et puis, on peut bien sûr pendant le déjeuner discuter si vous avez envie. Merci.
Merci encore.